VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par les États-Unis. Le président Barack Obama et son vice-président Joe Biden se rendent aujourd'hui à Orlando, en Floride, pour témoigner leur soutien aux familles des victimes de la tuerie de dimanche dans cette ville et rencontrer ceux qui ont agi héroïquement depuis le drame. 4 jours après le massacre qui a fait 49 morts et 53 blessés, Barack Obama arrive au chevet d'une ville qui ne fait qu'entamer son deuil. Le chef de l'exécutif américain veut rencontrer des familles de victimes pour leur présenter ses condoléances et les réconforter, selon son porte-parole. Le président prévoit aussi de s'entretenir avec des membres des équipes d'urgence, médecins, infirmières ou ambulanciers, qui ont agi héroïquement et courageusement, sans se préoccuper parfois de leur propre sécurité, a souligné la Maison-Blanche. Au plan politique, le Parti démocrate poursuit sa campagne entamée après le massacre pour obtenir l'examen au Sénat américain d'une loi limitant l'accès aux armes à feu des suspects de terrorisme. Et au plan judiciaire, le procureur d'Orlando a prévenu qu'il ne tolérerait plus les menaces contre la communauté musulmane qui feront désormais l'objet de poursuites pénales. Afrique de l'Ouest maintenant, le Bénin renforce son dispositif de sécurité après avoir reçu une nouvelle alerte de menace terroriste. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le chef d'état-major de l'armée béninoise, le général Awal Nanimi, dit qu'il s'agit d'un message de routine envoyé de façon régulière et ne devait pas se retrouver dans la presse. Mais depuis ce week-end, les journaux béninois reprennent en boucle le texte disant « Suite à une nouvelle alerte de menace terroriste, il est demandé à l'ensemble des forces de l'ordre béninoises de renforcer la sécurité sur différentes zones menacées et d'être plus vigilantes lors des fouilles aux frontières. Il n'y a pas de précision sur la nature de la menace. Le Bénin a proposé d'apporter son aide à la force multinationale pour combattre Boko Haram au Nigeria. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont pris des mesures de sécurité renforcées après les attentats de Ouagadougou en janvier qui avaient fait 30 morts, puis ceux de Grand Bassam qui avaient fait 19 morts en mars. Ces attaques ont été revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Au Mali, les groupes armés qui avaient boudé le processus de mise en application de l'accord de paix sont revenus sur leurs décisions. Et avec le gouvernement, un chronogramme a été établi pour l'installation des autorités intérimaires dans les régions nord du pays. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Les protagonistes de la crise malienne se retrouvent encore. Ils viennent de convenir de l'installation des autorités intérimaires dans les régions nord du Mali. Le chronogramme établi dans ce sens débute le 1er juillet prochain par l'installation du MOB, suivi du redéploiement de l'administration d'État du 15 juillet au 15 août 2016, ce qui permettra le retour des services techniques de l'éducation pendant le même mois d'août jusqu'à la fin septembre. Les autres services techniques, comme la santé, l'énergie, pourront signaler le retour du 1er août au 30 septembre 2016. Pour ce qui est du redéploiement de l'administration judiciaire qui va boucler cette série de retours, elle s'effectuera du 1er août au 30 septembre de la même année. Le gouvernement et les groupes armés se sont mis d'accord pour la mise en place des autorités intérimaires qui devront administrer les régions nord du Mali. Elles seront mises en place dans les collectivités territoriales des 5 régions administratives du nord du Mali. Les membres des autorités intérimaires seront désignés de manière consensuelle. Elles seront composées de représentants des groupes armés et ceux du gouvernement malien. Le hic dans cette affaire est le fait que l'État malien va siéger dans les structures avec les groupes armés, ce qui n'est pas du goût de bon nombre de Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, dans la région de Difa, une attaque récente du groupe islamiste nigérian Boko Haram a jeté des dizaines de milliers de personnes sur les routes. Le gouverneur de la région a affirmé hier qu'il était difficile de venir en aide aux dispersés et que l'État nigérien cherche à les regrouper sur des sites. Le point avec Morgane Guiriek.
Les gens se déplacent et s'ils sont dispersés, c'est difficile de les aider, a déclaré Dandano Mamadou Lawali, gouverneur de Difa, près de la frontière avec le Nigeria et le Tchad. Malgré cette dispersion, il promet d'ici demain de donner un chiffre exact du nombre de déplacés. Au moins 50 000 personnes ont fui cette zone après une attaque de Boko Haram le 3 juin à Bosso. Au moins 26 soldats nigériens ont été tués. En déplacement en France ce mardi, le président Mamadou Issoufou a reconnu que ses forces ont malheureusement été débordées. 2000 soldats de l'armée tchadienne sont venus en renfort. Ils doivent lancer de façon imminente une contre-offensive contre Boko Haram en coordination avec le Nigeria, le Niger et le Cameroun.
Niger toujours, les cadavres de 34 migrants, dont 20 enfants, ont été retrouvés la semaine dernière dans le désert nigérien alors qu'ils tentaient de se rendre en Algérie voisine. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère nigérien de l'Intérieur. Les précisions de Jean-Roger Bion.
34 personnes, dont 5 hommes, 9 femmes et 20 enfants, ont trouvé la mort dans leur tentative de traverser le désert, précise le ministère dans un communiqué transmis à l'AFP. Ils sont probablement morts de soif, comme c'est souvent le cas. Ils ont été retrouvés près d'Assamaka, un poste frontalier entre le Niger et l'Algérie, a confié à l'AFP une source sécuritaire. Les migrants ont été abandonnés par des passeurs au cours de la semaine du 6 au 12 juin 2016, explique le communiqué. Seuls 2 corps ont été identifiés, ceux d'un Nigérian et d'une Nigérienne de 26 ans, précise le texte. Dans le communiqué, le ministère attire l'attention des migrants clandestins sur les risques qu'ils courent en tentant cette voie périlleuse savamment entretenue par des réseaux de criminels.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, RDC. L'abbé Apollinaire Malumalu n'est pas décédé, contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques jours. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante va mieux et son état de santé se stabilise, a déclaré hier à Kinshasa Corneille Nanga, président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante congolaise. Monsieur Nanga revient des États-Unis où il est allé rendre visite à son prédécesseur. On écoute Corneille Nanga au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Se faisant suite à la nouvelle qui s'était répandue il y a 10 jours, faisant état du décès de l'abbé Apollinaire, l'ancien président de la CENI, que nous avons conduit une délégation composée entre autres de l'évêque de diocèse de Boutembo-Béni, du docteur Soulou, du président de la CIME, ainsi que d'autres, pour s'enquérir de l'état de santé de l'abbé Apollinaire. Il s'est fait qu'il est entré depuis 10 jours à un état critique. Sa santé s'est nettement dégradée, mais il est en vie. Et nous l'avons vu, il nous a reconnus. En ces jours, son état est stable. Il est lucide et coopérant. Donc c'est pour dire que nous suivons cette question de très près, conformément au règlement intérieur de la CENI.
Corneille Nanga, président de la CENI en RDC. Le Rwanda et le Burundi renvoient chacun chez eux les ressortissants du pays voisin en situation irrégulière dans leurs territoires respectifs, ce qui a conduit à des frictions diplomatiques entre Kigali et Bujumbura. La dernière vague de Burundais refoulés par Kigali se trouve au camp de réfugiés de Kirundo au nord du Burundi. Pour en savoir davantage sur les conditions de leur retour au pays, Eric Manira Kiza a joint à Kirundo le correspondant du service Afrique centrale de la Voix de l'Amérique, Jean Bosco Ndaru Rinze, qui les a rencontrés sur place.
Certains disent avoir quitté le Burundi il y a plus de 10 ans pour chercher comment améliorer leur vie au Rwanda. Expulsés par surprise, ils se lamentent de ne pas avoir eu la permission de récupérer leurs biens, notamment leur production agricole. Au moment où ils sont arrivés au Burundi, ils ont été bien accueillis d'abord par l'administration qui disait que leur expulsion est une marque que le Burundi a un mauvais voisin.
Jean Bosco Ndaru Rinze, un des correspondants de la Voix de l'Amérique au Burundi. Près d'un mois après le crash de l'Airbus A320 égyptien, des morceaux de la carlingue ont été localisés au fond de la Méditerranée. Mais la priorité reste de repêcher les boîtes noires pour comprendre les causes de cette catastrophe aérienne toujours inexpliquée. Ces nouveaux débris ont été photographiés par un robot sous-marin qui explore la zone au large des côtes égyptiennes où s'est abîmé l'avion reliant Paris au Caire avec 66 personnes à bord dans la nuit du 18 au 19 mai. En Irak, un désastre humanitaire à Fallujah, cible d'une offensive de l'armée irakienne pour déloger le groupe État islamique. C'est le cri d'alarme d'une ONG norvégienne. Au moins 48 000 personnes ont fui leur habitation depuis le début de l'offensive contre Fallujah le 23 mai, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.